France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La somme est vertigineuse, mais Bayer est prêt à tout pour arrêter la plupart des procédures lancées contre sa filiale Monsanto et son produit phare, le Roundup à base de glyphosate. Aux États-Unis, le groupe allemand vient donc de conclure un accord qui devrait lui coûter, Loïc Piala, plus de 10 milliards de dollars.
On a rarement vu un règlement à l'amiable avec autant de zéros, concède une professeure de droit dans le New York Times. Mais avec le nombre de plaintes comprises dans l'accord, la somme dont bénéficiera chaque victime se situe entre 5 et 250 000 dollars, à des années-lumière des dommages et intérêts infligés à Bayer lors de ses 3 procès perdus depuis 2018. Selon le Wall Street Journal, les actionnaires jugent d'ailleurs acceptable ce montant de 10 milliards, surtout que Bayer n'admet aucune faute et pourra continuer à vendre son herbicide Roundup. La fermeture des tribunaux à cause du coronavirus a joué en faveur du géant allemand de l'agrochimie. Difficile d'espérer un procès dans les conditions actuelles. Au moins 25 000 plaignants ont toutefois refusé de signer l'accord. Une partie de la somme servira également à financer un comité indépendant de 5 scientifiques chargés de déterminer une fois pour toutes s'il existe un lien entre le Roundup et le cancer.
6 milliards d'euros pour l'hôpital public, mais aussi pour les EHPAD et les établissements privés. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a finalement donné des chiffres hier soir, un mois après avoir lancé une grande concertation avec les professionnels du secteur. Cette enveloppe sera utilisée pour des hausses de salaire des personnels soignants. Les médecins ne sont pas ici concernés, leur rémunération faisant l'objet d'une négociation parallèle. Reçue hier après-midi par le chef de l'État, les partenaires sociaux ont eu la primeur des arbitrages présidentiels en matière de chômage partiel. Deux dispositifs vont finalement cohabiter, l'objectif étant, Annabelle Grelier, de limiter autant que possible les licenciements et les suppressions d'emplois.
Ce n'est qu'à partir du 1er octobre que le chômage partiel de droit commun que connaissent aujourd'hui environ 8 millions de salariés va baisser. Jusqu'ici, ils percevaient un minimum de 84% de leur salaire net pour les heures chômées. À l'automne, ce minimum va descendre à 72% pour les salaires au-dessus d'1,3 fois le SMIC, quand pour les salariés au SMIC, il sera maintenu à 100%. Côté employeur, l'État prendra en charge 60% de ses indemnités contre 85% aujourd'hui. Cette prise en charge durera 3 mois, renouvelable une fois et à condition que leur employeur maintienne les emplois. Concernant le chômage partiel de longue durée, le dispositif ARM, il s'adresse aux entreprises durablement touchées par la crise comme l'aéronautique, l'automobile ou encore le tourisme. Il pourra durer jusqu'à 2 ans par phase de 6 mois renouvelables. Selon cette nouvelle formule qui sera accessible dès le 1er juillet, les salariés concernés toucheront 70% de leur rémunération brute. Le mécanisme ne peut toutefois être instauré qu'avec la signature d'un accord collectif d'entreprise ou de branche. L'État financera 85% de cette indemnisation. Enfin, le nombre d'heures susceptibles d'être chômées ne peut être supérieur à 40% du temps de travail. Emmanuel Macron a souhaité également que le temps non travaillé soit dédié à la formation, une formation dont l'État pourra prendre en charge jusqu'à 80% des coûts pédagogiques. Ce nouveau dispositif, inspiré d'un texte de la métallurgie, lui-même copié sur le modèle allemand, vise à offrir au patronat une alternative aux suppressions d'emplois, mais aussi conserver les compétences au sein des entreprises.
Maintenir l'emploi en France et protéger l'industrie, voilà ce que vont réclamer aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme plusieurs personnalités de gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Raphaël Glucksmann ou encore Philippe Martinez pour la CGT. Ils viendront soutenir à Gerzal les salariés de Luxfer. Cette usine a fermé ses portes l'année dernière. Elle fabriquait des bouteilles d'oxygène pour le monde médical et pour les pompiers, notamment pendant la crise sanitaire. Des élus locaux ont demandé sa nationalisation et sa réouverture pour éviter une pénurie. C'est parti pour une semaine de vote en Russie. Vladimir Poutine demande à ses concitoyens d'approuver une réforme de la Constitution qui doit lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Des masques et du gel désinfectant seront à disposition des 110 millions d'électeurs. Aux États-Unis, le coronavirus continue de frapper durement le pays. Le Texas, la Floride et la Californie étaient hier les plus touchés. Les autorités sanitaires ont enregistré près de 36 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures. L'un des monuments les plus fréquenté au monde est de nouveau accessible au public. La Tour Eiffel rouvre ses escaliers à partir de 10h ce matin. Dans un premier temps, les visiteurs ne pourront pas dépasser le deuxième étage. Ils seront en tout cas suffisamment hauts pour constater que Paris et sa proche banlieue vont se couvrir aujourd'hui d'un voile de pollution, un pic d'ozone qui oblige les autorités à mettre en place la circulation différenciée. Seuls les véhicules avec une vignette critère allant de 0 à 2 sont autorisés à rouler aujourd'hui dans la capitale ainsi que dans les départements de la Petite Couronne. La préfecture indique que cette mesure pourrait être, si besoin, reconduite demain. Toujours beaucoup de soleil aujourd'hui sur la plupart des régions. Le temps sera tout de même lourd et orageux, notamment sur l'ouest du pays. Les températures continuent de progresser de 10 à 20 degrés ce matin, de 23 à 36 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
À réécouter sur francemusique.fr.